c'est vendredi. Puis les vendredis, dans Gravel dans le retour, on jase de sport. Mais surtout de la vie avec notre chum Pierre Houd. Gravel dans le retour avec Denis, Véro, Audrey et Pierre Houd.
Bon vendredi, bon début de week-end. C'est un moment que plusieurs attendent avec impatience. On s'en va rejoindre notre ami Pierre Houd qui, je pense, est en route vers Ottawa au moment où on se parle. Salut Pierre!
Salut Denis, bonjour Véro, salut Audrey, salut tout le monde. C'est mon pèlerinage annuel dans un très beau contexte parce que la route 417 est correcte. C'est une route assez directe, assez plate. Mais à ce temps-ci de l'année, c'est absolument magnifique pour deux raisons. C'est beau à cause des couleurs.
Ouais. Les fameuses couleurs.
Si tu aimes les beaux phénomènes de la nature, quoique celui-là est un peu triste, c'est aussi un corridor migratoire. Autant au printemps, à l'époque où on allait faire les séries des sénateurs, on voyait les bernaches qui revenaient vers le nord. Autant à ce temps-ci de l'année, tu commences à les voir partir vers le sud, quoique là, j'en ai pas vu passer à Montréal. Ah. Mais alors c'est un double phénomène. Puis il fait un temps, mon cher Denis, où j'avais le plaisir de faire ça dans le Piper, dans le petit coco. Et puis là, ben, qu'est-ce que tu veux? Je le fais par la bonne vieille route maintenant.
Quand tu as parlé de corridor migratoire, je pensais pas que tu allais nous parler de bernache. Je pensais que tu allais nous parler des snowbirds avec le gros campeur qui commençait à descendre vers la Floride.
Je suis pas sûr qu'il y en a qui passent par Ottawa. Ça fait pas un beau détour. Il y en a qui passent par la 401 pour traverser au Mille-Îles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour arriver du côté de l'État de New York, dans l'ouest de l'État de New York. Mais là, trêve de discussion, mon cher Denis. Je suis comme le... Ça s'appelait comment? Au-delà du réel. Je prends le contrôle de votre radio.
Des ondes verticales et horizontales.
Oui, je prends le contrôle de la radio et de la discussion parce que tu me vois venir. Oui. J'avais tellement hâte de te parler. J'ai vu des photos qui m'ont ému à l'extrême hier avec tes gars pour leur premier match de la Ligue nationale de hockey au Colisée de Québec. Je veux que tu nous racontes ta soirée et je veux avoir ton input à toi sur ce que tu as vécu et sur ce que tu as vu.
Soyons clairs sur une chose, Pierre, c'était pas le match de l'année. Là. Je sais que le Canadien il fait semblant d'être en série dans ses matchs pré-saison depuis une coupe de game. Là. On s'est comme violemment rappelé à Québec hier c'était quoi un vrai match pré-saison. Mais au-delà de ça, Pierre, moi, mon premier match de la Ligue nationale de hockey, je l'ai vu à l'âge adulte, de mes yeux vus. Puis c'est la première fois que j'avais constaté à quel point la vitesse est relative quand tu la vois sur un écran de télévision versus quand tu es présent, la force des mises en échec, la précision du déplacement des gardiens de but. Puis je me disais, mon Dieu, que j'aurais voulu vivre ça quand j'étais enfant puis que je tripais comme un malade sur mon Canadien avec Patrick Roy, avec Guy Carbonneau, avec Mats Naslund, avec Bobby Smith, avec Stéphane Richer. Puis mes enfants l'ont vécu, c'était leur cadeau de Noël. J'avais comme épinglé quelques sorties de boys au fil de l'année 2024. Puis ça, c'était la dernière. C'était notre dernier rendez-vous de petits gars. On allait au Centre Vidéotron voir le match pré-saison entre les Kings de Los Angeles et les Bruins de Boston des deux tiers des garçons Gravel. Mon grand prend pour le Canadien. Il avait sa casquette hier. Mais de voir l'émerveillement dans les yeux de ses enfants, il n'y a rien qui bat ça. Puis la qualité de discussion qu'on a eu et pendant le match et après, parce qu'on a resté pogné dans le parking à peu près une heure et demie, mais il n'y avait rien de négatif là-dedans parce qu'on jasait du match, on jasait des choses qu'on avait vues, des différences avec le hockey des remparts que les gars sont habitués de voir plusieurs fois par année. Ça a été une belle soirée. Il était ému de voir l'hommage qu'on a rendu à Patrice Bergeron en début de rencontre. C'est un bel hommage que les Bruins lui ont rendu, d'ailleurs, de montrer à quel point il y avait besoin de joueurs de premier plan comme Patrice Bergeron cette année.
Oui, mais attends ça, un instant, monsieur l'invité. Je, je reprends le contrôle avec une sous-question. N'êtes-vous pas en train de faire un peu de fantaisie? pour ne pas dire, n'êtes-vous pas en train de fantasmer, monsieur?
Ben, écoute, Pierre, on était à un bras de marchand près de l'alignement qu'on va avoir cette saison-ci, puis j'ai vraiment pas été impressionné par le jeu des Bruins. Personne ne l'a été. Aux deux tiers, les gens présents, on était plus de 17 000 personnes au centre Vidéotron. C'était les couleurs des Bruins là, qui étaient arborées le plus et de loin. Puis j'ai entendu le commentaire à plusieurs reprises. Voyons, hey, c'est pas impressionnant cette année, puis ainsi de suite. Par contre, moi, je l'ai vécu à travers les yeux de mes deux petits gars. Ça aurait pu être un septième match de finale de la Coupe Stanley.
Ça aurait été pareil. Hein?
Ça aurait été probablement la même chose. C'est un beau moment familial, puis l'ambiance au centre Vidéotron. Les gens de Québec s'ennuient du hockey. Je pense qu'il n'y a plus d'argumentaire à faire là-dessus. C'est juste que la prochaine fois, tu me permettras la blague. La prochaine fois, il faudrait demander au ministre des Finances, Éric Girard, de donner 8 millions à chaque équipe. Comme ça, les deux équipes vont jouer.
Ben, écoute, ben, là, parlant de fantasme, celui-là, j'aime mieux dire qu'il se réalisera pas dans le contexte actuel. Mais ceci dit, écoute, moi, je suis content de t'entendre parler parce que ça, c'est une dimension. Et je savais que tu allais sur ce terrain-là parce que je te sentais à distance hier. On s'est même écrit personnellement, toi et moi, pendant le match.
Ouais.
Hey, pour une fois, c'est toi qui m'écris pendant un match et non le contraire.
Ouais, ben là, je vais aller au-devant des coups. Là, c'est pas une bonne game. Je vais écrire à Pierre avant qu'il commence à m'écœurer.
mais tu sais, Denis, dans cette ère où on cherche à tout rationaliser, à tout comptabiliser, à tout trier dans le bon tiroir. Et on essaie de sauver la veuve et l'orphelin parfois. Ou enfin, c'est l'impression que ça donne. Je mets pas à procès notre époque. Je pense qu'il y a des choses extraordinaires, beaucoup plus de choses extraordinaires que de moins bonnes choses qui se passent à notre époque. Mais moi, tu le sais, je t'ai souvent parlé de ma faculté d'émerveillement,
qui est
mon héritage de René Lecavalier pour mon métier. Et puis Garneau l'a pris sur ses épaules, puis Garneau l'a transmis à des hoods de ce monde, et ainsi de suite. Moi, je crois encore, et plus que jamais, que l'émerveillement est galvaudé parfois dans la valeur, par rapport à la valeur comptable de n'importe quoi, d'une pièce matérielle, d'un événement, d'un voyage. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Très bien.
Et moi, je pense qu'hier, ce que ces garçons ont vécu, ça n'a rien à voir avec un match de 4 à 1 qui était 0 à 0 jusqu'à deux périodes. Mais ce qu'ils ont vécu, c'est beaucoup plus large que ça. C'est leur univers à eux. Puis ils ont ça dans la tête pour le restant de leur jour. Dans les parties de Noël, dans 20 ans, dans 25 ans, peut-être même en taquinant un peu, ces gars vont entre eux autres dire « Hey, ça, c'est comme le soir où on était au Colisée, t'en rappelles-tu? Ouais. On était avec notre père puis on n'était plus capable de sortir du stationnement après. » Ils vont en parler pour le restant de leur jour.
Ouais.
Et moi, je peux dire une chose, j'ai décrit cette année les matchs de recrue, 14 et 15 septembre. On diffuse tous les matchs préparatoires et je suis le premier à succomber parfois à la tentation de remettre en question les matchs préparatoires. Mais je peux dire une chose, c'est que les matchs préparatoires, souvent, ouvrent la porte à des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens parce qu'ils trouvent le moyen de racheter des billets ou de se procurer des billets à moindre coût.
Oui.
Et la fascination, elle est incroyable. Elle est beaucoup plus grande que pour les habitués. Tu comprends ce que je veux dire?
Ben oui.
Et ça se sent, à la moindre occasion, tu vois une foule délirante et débordante. Puis au passage, je peux dire une chose, mon cher Denis, notre plus basse cote d'écoute, puis merci à Richard Terrien de continuer à les publier sur Facebook, parce que ça nous donne, nous autres, la possibilité de savoir où on en est. La plus basse cote d'écoute qu'on a eue de moyenne, c'est, je pense que c'est 371 000.
Pour du pré-saison, écoute, c'est exceptionnel.
C'est exceptionnel. Alors, où je veux en venir, c'est que il faut pas oublier non plus, comme adulte, et moi je suis adulte plus, il faut pas oublier de temps en temps de remettre sur la table dans le débat ou dans la chose publique, il faut pas oublier l'émerveillement qu'on veut ou qu'on peut créer, particulièrement chez les jeunes. On a tendance à vouloir rationaliser et à comptabiliser beaucoup trop vite présentement, et c'est correct, on en est là parce qu'on a accès à toute l'information dont on a besoin, mais je pense que ce que tu as vécu hier, ça mérite d'être considéré, ça mérite d'être mis dans la balance et dans, comme je te disais tantôt, sur la place, dans le débat public.
Mais Pierre, je suis d'accord avec toi 200%, puis je veux pas du tout renier mon petit plaisir familial égoïste d'hier. Mais remettons-nous dans le contexte du Canadien de Montréal qui perd deux joueurs pour une bonne partie, sinon l'essentiel de la prochaine saison, dans des matchs pré-saison qui ne veulent absolument rien dire. Je comprends la frustration des partisans, puis je comprends même les observateurs, les analystes du sport, de remettre en question la pertinence de ces matchs hors concours-là parce qu'on demande on demande aux équipes de jouer des vrais games. Là, quand ça joue pas assez, on chiale dans les estrades. Je l'ai vu un peu hier. On est comme pogné dans un genre de dilemme inconfortable où le Canadien a perdu à la loterie parce que là, Patrick Laine est hypothéqué pour au moins la moitié de la saison. Puis David Rannbacher, ben, c'est pas mal fini pour la saison aussi. Là.
Oui, ben, tu as tout à fait raison. Et ça... Il ne faut pas négliger non plus cette réflexion-là qui est l'autre côté de la médaille. Et moi, en décrivant tout ça à chaud, c'est sûr que les premières pensées qui me viennent, c'est « mais est-ce que c'est inutile? » Tu sais, puis je sais que la planète s'est tournée vers le pauvre Cédric Paré, là, qui d'ailleurs vient de Lévis, là, il vient de tout près de chez vous. C'est sûr que sur le coup, tu fais « ah ». Moi, personnellement, dans le sport, là, c'est l'accident ou l'incident ou le geste pour moi, le plus antisportif. Quand on se ruait sur les quarts arrière tellement tard dans la NFL à un certain moment donné, c'était le numéro 1A ou 1B sur ma liste. Là. Ouais. Mais ça, le genou contre genou, mais j'en ai vu tellement dans ma carrière, malheureusement. Hey, Craig Meuney qui a sorti le genou et qui a détruit le genou de Donald Odette. Là. C'est arrivé devant moi au vieil auditorium à Buffalo. J'ai vu le gros Hulk sortir le genou. Je parle de Samuelson. J'ai vu Brian Marchman tellement lent que c'est le seul recours qui lui restait. Sur le moment, ça te choque. Sur le moment, tu te dis pourquoi. Sur le moment, tu te dis quelle occasion ratée. Et je vais aller plus loin que ça. Là, c'est le marketeur qui te parle. Tu prives les amateurs de hockey, enfin les fans du Canadien d'abord, mais admettons les fans de hockey en général, tu les prives d'un espèce d'engouement extraordinaire qui était en train de se bâtir. Ouais. Donc, tout ça est vrai. Après ça, quand tout le monde se calme, je suis à la maison, puis je décompte, puis je parle à Marc, puis comment t'as vu ça, puis comment t'as vu ça, tu arrives après ça à dire, bon, il y a un côté aléatoire dans tout ça. Il y a un côté accidentel. Il y a un côté bête. Si l'aîné, je sais pas moi, ferme un peu les jambes, parce qu'il est rentré très large, il se fait pas frapper. Si Paré a un quart de seconde de plus pour voir venir la situation, peut-être qu'il tamponne un peu. Tu sais, tu t'apprends à tempérer un peu tout ça. En bout de ligne, c'est pas ni à toi ni à moi à trancher. Moi, je laisse toujours ça aux joueurs, aux entraîneurs, aux équipes. Tout de suite, il y en a plusieurs chez le Canadien qui ont refusé de blâmer Paré, à 100%, à tout le moins. Ensuite, tu as des Martin Saint-Louis qui a dit « ben moi, j'aimais ça avoir plein de répétitions avant mon premier match, parce que moi, dans le lac, je veux pas mettre mon petit orteil, je veux sauter dans le lac. » Et je cite, non, mais je cite ses propos directement. Et il a dit « donc, je vais être prêt à sauter dans le lac.
Ouais. »
Et la conclusion, t'as un Patrick Laine qui a dit « écoute, j'ai reçu un message texte de Cédric Paré qui s'est excusé, qui s'est expliqué, et j'accepte. Et ça fait partie des risques et ça fait partie des aléas. » Bon, je ne convaincrai pas tous ceux qui nous écoutent présentement, j'en suis convaincu. Moi, j'appelle simplement à voir l'ensemble de la situation. Puis je peux te dire une chose, Denis, je peux tout de suite te dire que demain soir, les sénateurs, ils ont leur formation complète. Parce que je regarde ceux qui jouent à Belleville ce soir. Là. Il y a eu un paquet de rappels, justement, de Belleville. Et je regarde, là, ce sont que des joueurs de la Ligue américaine ce soir.
Okay.
Je peux dire que le Canadien va avoir, sauf peut-être une dernière observation ou deux, le Canadien va avoir sa grosse équipe ici. Et peut-être même Caden Goulet. Alors, à quoi s'attendre? Première réaction de Madelon, oh, ça va brasser, ça va exploser. Peut-être que ça va être le contraire, Denis.
Ça arrive souvent, hein? Quand on build quelque chose, on a l'impression que nos attentes sont tellement élevées en tant que partisans. On se dit « ça va brasser, ça va être l'éruption du Vésuve ». Puis finalement, on oublie c'est quoi le quotidien d'un joueur de hockey. Moi, je pense que le gros de la chaleur, on l'a vécu dans la dernière semaine. Ça va peut-être être plus un retour au calme là, qu'on va voir demain soir. Ça va jouer au hockey peut-être plus.
D'autant plus, il y a deux réalités demain soir. C'est le dernier match préparatoire pour les deux équipes. Alors, c'est sûr que là, tu commences à y penser. Tu commences à penser au match d'ouverture pour l'un et l'autre. Puis les uns et les autres s'affrontent samedi prochain au Centre Bell.
Ben oui.
Tu vois tout ça. L'autre facteur, c'est que par rapport, disons, à l'incident de Paris et par rapport à la qualité de la formation des Leafs qu'il y avait ce soir-là, l'autre soir, chaque équipe et chaque joueur des deux équipes ont leurs responsabilités presque partagées. On a fini par voir que le coup sur Doc n'était pas un coup immédiatement à la tête.
Mm-hmm.
On a fini avec une quantité incroyable de reprises par réaliser que le coup de Jacquard n'était pas directement à la tête non plus. Maintenant, est-ce que c'était sportif? Est-ce que les deux... Mais c'est là où, un autre jour, Denis, on débattra là-dessus. Parce que entre ce qui est sportif et acceptable, puis entre ce que le règlement dit dans son libellé noir sur blanc, il y a un gouffre, il y a un canyon. Alors donc, on ne s'embarquera pas dans l'esprit sportif dans la discussion d'aujourd'hui. Donc moi, je pense que demain, à l'opposé, on peut s'attendre à un match plus tranquille qu'on pense.
Je veux t'entendre sur Albert Jacquet particulièrement. Il aime ça jouer le rôle du shérif. Les partisans aiment ça à 90% du temps. Mais c'est pas en se faisant sortir à chaque game qu'il va rendre service à son équipe. Comment trouves-tu son camp globalement? Penses-tu qu'il essaie de se rattraper en agissant comme ça? Est-ce que c'est un gars que tu vois commencer en haut ou en bas cette année? Là, j'ai entendu beaucoup de débats, beaucoup d'échanges, beaucoup d'analyses cette semaine. Je veux t'entendre sur Albert Jacquet.
Ben, je pense que tu mettrais bien la table et tu rends difficile ma réponse directe. Parce que Jacquet, pour moi, sur le plan hockey, a un camp d'entraînement correct, mais et encore là, chacun a sa définition de la notion de policier, de shérif, trouve le terme qui convient. Je pense que malheureusement, je reviens à ce que j'ai dit tantôt, tant que les arbitres, parce que les arbitres, c'est le reflet de la Ligue, tant qu'on va tolérer des gestes antisportifs qui on les pénalise pas parce que ça répond pas au libellé du règlement, malheureusement, les équipes vont chercher à garder des Albert Jacquet, puis des Ryan Reeves, et puis des joueurs de cette nature-là dans leur formation. C'est une déduction, Denis, que je fais. Pas un vœu pieux, pas un souhait, c'est une déduction que je fais.
Mm-hmm.
Et c'est clair que quand tu t'en vas jouer à Toronto, puis que Ryan Reeves parle aux médias pendant 4 jours, puis les médias rapportent exagérément ses menaces et ses propos, ben, si t'es Martin Saint-Louis, tu te dis, OK, si Jacquet est à Laval, je peux mettre qui pour parer à ce que les Leafs veulent peut-être nous offrir?
Ouais.
T'en as pas vraiment. Par contre, à l'inverse, puis moi, je suis en train de faire l'exercice pendant qu'on on établissait la communication tantôt, le Canadien, avec l'absence de Laine et avec une surabondance de jeunes défenseurs, le Canadien a un sérieux casse-tête. Parce que ce matin, à Mont-Tremblant, il y avait 27 joueurs venus. Il y avait 15 attaquants. Il y avait 8 défenseurs. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 défenseurs, 3 gardiens. Tu peux enlever Dobesh tout de suite, pas de problème.
Mm-hmm.
Là, chez les défenseurs, tu regardes droitier, gaucher. Il y a 3 droitiers seulement, incluant Logan Mailloux, qui pour moi, un camp très décevant.
Je pense que tout le monde est d'accord. Hein? Le Canadien lui ouvre grand la porte, mais il a comme hésité à mettre le pied.
Hein? Ben, écoute, puis c'est pas le nombre de répétitions qui a manqué, c'est le défenseur qui a été le plus utilisé. Mm-hmm. Il y a des chances que tu le vois encore demain soir pour un dernier test. Donc, le fait qu'il soit droitier ne devrait pas lui garantir une place dans la formation. Parce que Mailloux, s'il est ton 7e ou ton 8e défenseur, où est-ce qu'il va se retrouver match après match? Il va se retrouver sa galerie de la presse.
Ouais.
Et tu veux pas ça. Mm-hmm. Tu veux qu'il se développe. Alors, si tu me demandes, est-ce que Mailloux est un candidat pour rester un peu par défaut? Je dis non, il faut pas qu'il reste par défaut. Il faut qu'il aille évoluer à Laval, comme il a réussi à faire au fil de la dernière saison. Alors, on enlève Mailloux, il reste 2 droitiers naturels, en autant qu'on pense que Barron a sa place dans la formation. Et moi, je pense que oui. Je pense qu'il a évolué. Il a un bon camp d'entraînement. Il fait pas trop de tambours et trompettes. Mais je pense que Barron va rester. Évidemment, David Savard va rester. Donc, si Mailloux s'en va, faut qu'il y ait un gaucher qui s'en aille à droite. Parce que tout le reste, ce sont des gauchers. Le choix naturel, c'est Cayden Goulet, qu'on a déplacé du côté droit, qui n'est pas son côté naturel. On l'a déplacé du côté droit pour avoir un trio plus relevé. Savard, Goulet, Barron.
Ouais.
Si Goulet est à l'aise, si Goulet dit, ben, regardez, moi, je peux être aussi bon du côté droit, tu règles un problème. À gauche, ben, Matheson, automatiquement, c'est sûr. Ensuite, tu as, Strouble, pour moi, un excellent camp d'entraînement. Mm-hmm. C'est ton troisième à gauche. Mais là, ton deuxième, c'est qui? Est-ce que c'est Lane Hudson? Est-ce que c'est Herbert Jacquay?
Ouais.
Est-ce que c'est Engstrom qui est pas si mal? Je pense qu'Engstrom, c'est pas le choix. Fait que là t'as peut-être un défenseur de trop avec lequel tu dois composer. Puis du côté de l'attaque, si tu fais les quatre premiers trios, tu peux les faire assez facilement en excluant Lainé. Mm-hmm. T'as trois attaquants et là, tu tranches comment, Denis? T'as Alex Barré-Boulay qui a un excellent camp d'entraînement. Et d'ailleurs, je veux tout de suite dire aux gens de Montmagny que j'ai répondu à leur appel et j'ai adapté ma prononciation de son nom de famille selon les demandes des gens de Montmagny.
Comment ça?
On m'a dit, monsieur le descripteur, ce n'est pas, à Montmagny, ce n'est pas Barré-Boulay, parce que c'est comme ça que ça s'appelle.
Uh-huh.
On m'a dit, à Montmagny, c'est Barré-Boulay.
Bon. Ouais, ben Boulay, on l'entend à Québec, effectivement.
C'est vrai. C'est
alors,
vrai.
Alors voilà, je veux vous dire que j'ai encore la modestie facile et l'adaptation facile.
C'est bon.
À 67 ans, je me suis plié. Donc, est-ce que c'est Alex? Est-ce que c'est Alex qui reste? Est-ce que c'est le très étonnant et le très explosif et beaucoup plus mature que son âge, Oliver Capanen, qui va rester? Parce que lui peut rester, mais il peut pas aller dans la Ligue américaine. Donc, si tu le gardes, et éventuellement tu dis, ben on va le céder, mais tu peux pas le céder à la Ligue américaine. Tu dois le retourner à son club dans la Ligue d'élite de Finlande. Et ensuite, tu as Emil Heinemann. Alors, c'est gros l'absence de Lainé, là, parce que c'est l'effet domino est direct. Comment tu tranches après le match de demain soir et quelle sera ta formation de 23 joueurs pour le match de mercredi? Mais... Moi, je pense que chez les attaquants, Denis, celui que tu n'as pas besoin de placer en évaluation parce qu'il a été excellent, parce qu'il a une certaine expérience dans la Ligue nationale, c'est Alex.
Mm-hmm.
C'est Alex Barré-Boulay.
Ouais.
Et lui, si tu lui fais sauter quelques matchs avec Pezzetta, par exemple, tu ne brûleras pas son développement. Mais si tu fais ça avec le jeune Capanen, par exemple, ben, peut-être que tu risques de retarder un développement qu'il pourrait trouver dans la Ligue d'élite en Europe.
Mais là, on vient de répondre ensemble à la question de l'utilité des matchs pré-saison. Ça fait quoi, 5-10 minutes qu'on analyse qui doit être de l'alignement partant pour le début de saison du Canadien? Mais tout ce qu'on retient de l'analyse, les forces, les faiblesses, ça part du camp d'entraînement, ça part des matchs pré-saison, parce que si on n'a pas ce tampon-là, ben peut-être qu'on n'évalue pas Logan Mailloux de la même façon, peut-être qu'on n'évalue pas Kapanen de la même façon non plus. C'est là qu'on voit la nécessité des matchs pré-saison, dans le fond, Pierre.
Bien, puis je vais pousser l'analyse plus loin, Denis. Moi, je vais toujours me rappeler l'arrivée de Tomáš Plekanec à Montréal. Il a connu un deuxième camp d'entraînement exceptionnel, tellement qu'il allait commencer la saison avec le Canadien. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé un premier lock-up.
Mm-hmm.
Alors, il n'a jamais été en mesure... Il est arrivé le lock-up, c'est le premier ou le deuxième, en tout cas. Il est arrivé le lock-up, il n'a jamais pu commencer la saison. Et donc, c'était le lock-out quand on a annulé la saison complètement.
Okay.
Il a donc joué une saison complète à Hamilton, sous Doug Jarvis, avec son coéquipier de l'époque, qui était Matt Higgins. Ils étaient incroyables tous les deux. Chris Higgins, celui du Canadien.
Chris Higgins.
Oui, j'ai dit Matt, parce que ça, c'est un autre joueur. Et Plekanec me disait, beaucoup plus tard dans sa carrière, il dit, tu sais, j'étais tellement frustré de pas pouvoir commencer à Montréal parce qu'il n'y avait pas de saison. Mais c'est hallucinant comment la saison de plus dans la Ligue américaine m'a aidé à devenir le joueur que j'ai été et à avoir une très belle carrière dans la Ligue nationale. Donc, si tu n'as pas les matchs préparatoires pour porter ton jugement, ben peut-être que tu passes à côté. À l'inverse, un joueur parfois tiède dans les matchs préparatoires, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas une bonne saison. Alors, moi, je pense que c'est pour ça qu'on les garde. On les garde aussi parce que dans les marchés populaires, c'est payant. Dans des marchés il y a des marchés où on est complètement indifférent aux matchs préparatoires, mais je regarde au Centre Bell, je regarde nos codes d'écoute, et si tu mets ça dans la même tarte, là, disons qu'il y a plus de pour que de contre au moment où on se parle.
Je pense que oui, puis je pense que vous allez avoir encore demain soir une bonne cote qui va ressembler à des cotes de saison régulière. Puis c'est pas inintéressant non plus de voir qu'il y a des rivalités qui sont suffisamment vives pour qu'elles soient en feu dans des matchs pré-saison qui veulent rien dire. Je pense que chaque match entre les Sénateurs et le Canadien va être un événement cette année. Tu vas me dire que la barre était déjà placée, mais tabarnouche, tu vois qu'il y a une réelle animosité, puis les partisans sont dedans aussi, là.
Mais regarde ce qui s'en vient pour commencer la saison, Denis. La saison ouvre à Montréal mercredi contre les Leafs. Mm-hmm. Dès le lendemain soir, notre premier match à RDS, on est à Boston.
T'sais.
Et dès samedi suivant, les Sénateurs sont à Montréal. Je vais même en rajouter, peut-être dans un contexte différent, mais c'est que ce sont quand même les Pingouins et Sidney Crosby qui se mènent le lundi 14, le lundi de l'Action de grâce. Alors, écoute,
ça part fort.
Tu veux écrire un scénario là, pour avoir tes quatre premiers matchs en quoi? En six jours, en sept jours? C'est pas rien. En six jours, en fait. Alors, c'est quelque chose, comme dirait un certain Mario Lemieux. On a bien hâte. Mais je vous dis, demain, ça se peut que vous vous disiez, ben, coudonc, c'est bien calme, ce match-là. Ce n'est pas impossible, parce que par expérience, je l'ai vu souvent dans le passé.
Pierre, on te souhaite une belle fin de semaine. J'allais te dire, couche-toi pas trop tard, mais tu t'en vas à Ottawa, ça va de soi.
Oh, je m'en vais. D'abord, un, je serai pas seul. Deux, attention, je m'en vais pas à Winnipeg quand même.
Ouais, non, bon. C'est ça. Il y a des places pires que d'autres quand même.
Écoute, je m'en vais souper dans la petite Italie. On a notre petit coin préféré depuis des années et des années. La rue Preston à Ottawa, parce qu'il y a plein de beaux petits quartiers. Le marché Bay, c'est très, très beau, là, de l'autre côté de notre hôtel, et puis près du Parlement. Mais la petite Italie, là, sur la rue Preston, qui est vraiment très bien. Alors, il ne faut pas généraliser.
Okay.
Quand même des... On finit toujours par trouver des endroits agréables.
La nuit vous appartient.
Ouais, ben là... Écoute, peut-être pas à notre âge, là, mais...
Je pensais pas qu'on se rendrait là, mais vu qu'on est rendu, moi, je te souhaite de passer du bon temps. Tiens, on va arrêter ça, là.
Voilà, écoute, c'est très agréable. On a la météo de notre côté, en plus, là, pour la route.
Bon, alors, ben,
on en profite.
Profitez-en bien. Plein d'amour, Pierre, à la semaine prochaine.
Salut, fais un beau câlin à tes gars et Véro et Audrey, je vous salue à vendredi prochain. Imagine-toi, je vais te parler vendredi prochain, je vais être fraîchement atterri de Boston.
Oui.
On atterrit en pleine nuit. On va être encore très émotif, toi et moi, vendredi prochain.
Probablement, puis en mettant les pieds à Boston, tu vas avoir été plus présent dans l'entourage des Bruins que Jeremy Swayman. C'est pas pire pareil.
C'est pas pire pareil. Et d'ailleurs, Véro. En terminant, Véro, je rêve un jour que tu tiennes une conférence de presse en disant « Pierre-Houd est encore récalcitrant, il aurait 64 millions de bonnes raisons de re-signer avec nous à Boulevard 102-1. »
C'est drôle!
Je vous laisse là-dessus.
Yes, way, man.
Ouais, mais là, ce qui arrive, c'est que ça dit ça en conférence de presse, ça va briser notre belle relation, je pense. Salut,
Pierre. Je te donnerai un pourcentage.
Hey, bon week-end. Salutations à Marc et à toute l'équipe de RDS.
Salut. Bye-bye.
Salut, Pierre. Notre ami Pierre Houde, évidemment, qui est en direction d'Ottawa. C'est le match de demain. Le dernier match hors concours entre le Canadien et les Sénateurs. Puis là, vous avez vu, le début de saison, ça va partir fort. Puis c'est bien tant mieux. Vous êtes arrivé vers la fin, dans le milieu de la conversation avec Pierre Houde. Pas de stress. Toutes ces